J'aime et j'écoute Radio Plus sur 104.3. Vous êtes à l'écoute de l'émission L'Heure Flamande, préparée par Michel et Marie-Jo.
Et vous venez d'entendre avec Julien l'évocation donc d'un plan d'eau, le plan de l'étang de Vingles, la nécessité de protéger ces zones humides. Et donc aujourd'hui, eh bien, nous allons évoquer une autre zone humide qui se trouve non loin de Douvrin, moins d'une heure de route. C'est un milieu particulièrement magnifique que je ne peux que vous inviter à aller découvrir. C'est un monde créé par l'homme de génération en génération, où l'on peut avoir aussi quelques frissons, même pour les plus sensibles, voir l'ensemble de cette végétation, de cette vie qui grouille. Et donc, tout simplement, nous allons donc évoquer le marais audomarois.
Vous venez d'entendre le groupe Chillelard, vous interprétez Piternel, autrement dit Pierrette. Vous êtes à l'écoute de l'heure flamande sur Radio Plus.
Et nous allons donc évoquer aujourd'hui le marais Audomarois. Alors, qui est donc ce marais? Est-ce qu'il a toujours existé sous la forme que l'on connaît aujourd'hui? Eh bien, nous allons faire un petit flashback et donc nous allons d'abord vous donner quelques chiffres pour vous donner déjà l'importance de ce site remarquable. Alors le marais de Saint-Omer va déjà nous surprendre par sa surface. Il compte pas moins de 3700 hectares. C'est une des surfaces humides les plus vastes des Hauts-de-France. Elle est répartie sur 15 communes, des communes donc qui sont d'une part sur le département du Nord et d'autre part sur le département du Pas-de-Calais. On compte pas moins de 10 000 parcelles qui sont réparties parmi 5 000 propriétaires. Voilà donc pour quelques chiffres et pour vous donner l'importance que constitue donc ce marais Audomarois. Alors l'origine de ce marais qui se trouve donc au pied de la ville de Saint-Omer est d'abord une immense cuvette, une sorte de décaissement envahi par les eaux, régulièrement les eaux de la mer du Nord. À l'époque, Saint-Omer n'est pas enclavé à l'intérieur des terres, il est plutôt d'ailleurs un port maritime. La plaine maritime flamande, elle est encore sous les eaux pendant de nombreux siècles. Ce n'est que petit à petit, après, avec le dépôt d'alluvions, que la plaine maritime de Flandre va se constituer et va rester bien sûr ce vaste décaissement rempli d'eau et qui va être aussi nourri par les eaux venant du fleuve de l'Aa. Donc c'est un immense bassin d'eau douce essentiellement. Et donc c'est à partir du 6e et 7e siècle les habitants du secteur de Saint-Omer vont commencer vraiment à s'intéresser pour exploiter cette vaste zone humide. En effet, Saint-Omer, c'est déjà une ville très importante du comté de Flandre. Sa population ne cesse de croître et d'ailleurs, on dit que la population est même supérieure à la ville de Paris à l'époque. C'est dire le poids économique et démographique de la cité. Alors, la Flandre, je vous le rappelle, est vassale du roi de France. Et donc, à l'époque, le roi Dagobert décide d'évangéliser cette zone de Saint-Omer, qui jusqu'alors était restée païenne. Ainsi, il envoie un premier moine, Audemars, qui va d'ailleurs donner le nom à cette région. Audemars est d'une lignée très noble, il est originaire de Normandie et il a le privilège de connaître la langue parlée en Flandre, puisque lui-même avait séjourné en Saxe et donc le parler saxon est assez proche du parler flamand. Et Audemars donc va venir sur le secteur de Saint-Omer pour évangéliser les populations.
Koppende met zijn hamer. Koppende met geweld. Ik heb genoeg van al dat smeden. Ik ga naar de Franse zwier. Wil mij tot de trouw begeven. Heb nooit mooier vrouw gezien. Nimmer meer met mijn hamer.
drinken. Nooit mag ik eens vrolijk zijn. Nooit mag ik iemand beschinken met een glaasje bier of wijn. Was ik maar bij mijn hamer. Was ik maar met geweld. Ik heb genoeg van al dat trouwen. Werd ik maar eens weduwnaar. Zou mij in een hoekje houden. En mij stellen uit gevaar. Kloppende met mijn hamer. Met geweld.
J'ai mes écoutes de Radio Plus sur 104.3.
Et donc, pour l'émission Le Flamand, nous évoquons donc le marais de Saint-Omer. Alors, Saint-Omer est une cité prospère grâce à son activité drapière et aussi par son commerce. Cette expansion, bien sûr, attire de plus en plus de monde. La ville ne cesse de croître et naturellement, il faut nourrir tous ces hommes. Et les moines décident alors de commencer à exploiter donc ce marais. D'abord, bien sûr, parce que le marais est très poissonneux, donc c'est une part. Et aussi, ils ont constaté que les terres, grâce à l'apport d'alluvion, sont des terres très riches, très fertiles. Et donc, il s'agit donc de commencer un travail d'exploitation de toute cette zone humide. Il s'agit aussi de maintenir la liaison maritime entre Saint-Omer et la mer du Nord. Et donc, on va creuser donc un canal, la création de ce canal dit du Grand Large, qui voit le jour vers l'an 1150. Le comte de Flandre, lui, encourage bien sûr ses travaux de canalisation. Il s'agit d'essayer de domestiquer ce vaste marais, compte tenu des richesses qu'on peut y trouver, donc poissonneux, mais aussi riche en gibier, en bois également. Les habitants exploitent la tourbe qui sert de combustible pour se chauffer. C'est un combustible peu coûteux et il s'agit donc bien sûr de l'extraire du fond de l'eau que l'on laisse sécher sur de la paille. Petit à petit, l'extrait de cette tourbe va donner bien sûr cette forme très particulière de ces buttes de terre en forme de U. Les gens rehaussent petit à petit donc ces terres, les exploitent. D'ailleurs, les habitants qui commencent à s'installer, qui construisent leur première maison, eh bien, on les appelle les broucaillers. Hein. Brouc en flamand veut dire tout simplement marais, qu'on fait par exemple Asbrouck, Broukerque, Église du Marais, pour ne citer que ces deux exemples-là. Les populations d'origine donc des marais, c'est une population donc essentiellement de langue flamande. On peut encore aujourd'hui trouver traces, témoignages de ce parler flamand de l'époque, comme le quartier de Lisel, qui veut dire simplement l'île, à rapprocher avec le nom de l'île Reisel. C'est aussi le nom du canal. Par exemple, on parle de Bas Meldijk. Le Strom, mer qui ne veut pas dire mer, mais black. Donc tous ces mots encore aujourd'hui qui sont utilisés pour identifier, eh bien les canaux, les voies d'eau, eh bien laissent un témoignage donc du parler flamand qui était d'usage donc dans les marais de Saint-Omer. Thank you.
Vous venez d'entendre une danse populaire des Pays-Bas, Jan Perwitt, un morceau arrangé par Jan Rapp, qui nous emmène au long des canaux bordés de moulins à vent et de tulipes. On imagine les fêtes populaires flamandes telles que les restituts, les travaux de Bogel. Vous êtes à l'écoute de l'heure flamande sur Radio Plus.
Et aujourd'hui, nous évoquons donc le marais audomarois. Le marais audomarois, où non seulement on y cultive, grâce à la fertilité des sols, de nombreux légumes pour, bien sûr, non seulement nourrir la population locale, mais aussi le vendre bien au-delà de la zone de Saint-Omer. On y amène des légumes même jusque Paris. Le marais fournit aussi beaucoup de poissons, c'est la base de nourriture de l'époque, mais on y cultive aussi le chanvre qui sert à la fabrication de cordes absolument nécessaires donc pour les bateaux qui sont le moyen de transport quasiment unique à l'époque. Mais il reste un problème de gestion pour les marais, c'est bien sûr le niveau d'eau. En effet, lorsqu'il y a des périodes de fortes pluies, il n'est pas rare que les terres soient malheureusement inondées. Alors, que faire? Certes, on peut, certains maraîchers, laisser volontairement les terres noyées sous les eaux, parce que les eaux apportaient bien sûr des alluvions, mais néanmoins, parfois, ça présentait un danger pour les habitations. Et c'est ici qu'il fallait donc réagir. Alors, dès le XVIIe siècle, on s'inspire eh bien justement des moulins hollandais pour réguler simplement les eaux. On construit des moulins à vent qui vont ainsi, par un système de vis d'Archimède, pomper les eaux pour les rejeter vers les canaux et vers la mer, et ainsi réguler bien sûr le niveau d'eau. Aujourd'hui, malheureusement, il ne reste plus que quelques tours de briques qui témoignent de l'existence de ces moulins, mais vous pouvez facilement retrouver l'ambiance et le décor qui pouvait exister à l'époque, d'une part en allant à la maison du Marais à Saint-Omer, où ils ont reconstitué un moulin entièrement en bois qui est juste en face du bâtiment. Et si vous voulez vraiment vous donner bien sûr une impression totale de ce paysage typique des marais, eh bien on ne peut que vous inviter bien sûr à aller visiter le site de Volendam aux Pays-Bas, où on a conservé encore tout ce jeu de moulins à vent qui sert à réguler bien sûr les niveaux d'eau, car c'est une inquiétude constante pour les habitants que de maîtriser bien sûr l'eau. Alors aujourd'hui, eh bien, ces moulins donc ont disparu, sont remplacés bien sûr par des machines modernes qui jouent toujours bien sûr le même rôle. Alors au cours des siècles, bien sûr, les hommes vont donc toujours essayer d'améliorer ce marais pour en faire une vaste zone d'exploitation. On continue à rehausser les terres, on cure les watergans, les canaux, on exploite la tourbe et on crée ainsi un véritable une sorte de damier de terre et on compte pas moins de 700 km de voies d'eau. C'est dire le travail immense que les hommes ont effectué sur ce marais de Saint-Omer. Évidemment, ce marais il ne s'est pas fait en un seul jour. En début d'émission, on parlait déjà du 6e, 7e siècle où on a commencé à s'intéresser à cette zone humide. Et encore aujourd'hui, eh bien, les hommes continuent bien sûr à protéger, à soigner cette réserve particulièrement sensible, qui n'est pas à l'abri de certaines invasions de plantes comme la jussie, où il faut maîtriser bien sûr ces algues qui risqueraient d'étouffer totalement toute vie aquatique. C'est aussi beaucoup d'arbres, et en particulier il y a le sol qui sert à maintenir les berges. Le sol, eh bien, c'est un des arbres emblématiques du marais de Saint-Omer. Il y a aussi le chêne qui va servir bien sûr à la fabrication des bateaux, mais aussi le noyer. Et le noyer a la particularité, c'est que les maraîchers, par les fortes chaleurs, mettaient leur embarcation remplie de légumes sous les noyers, car ils gardaient une certaine fraîcheur. Mais eux-mêmes n'y dormaient pas, ne prenaient pas la sieste sous les noyers, car malheureusement le noyer, lui, eh bien, dégage une sorte de poison qui peut purement simplement mettre à mal la personne, voire purement l'empoisonner. Donc ça, c'est vraiment les trois grands arbres que l'on voit à travers le marais. Il y a aussi, Marie-Jo, un autre arbre qu'on voit, c'est le prunier.
Les pruneliers.
Les pruneliers, voilà, qui sont magnifiques. Donc, et bien sûr, il y a
Les aulnes qu'on trouve encore rarement dans d'autres zones, dans les bois. Il y a l'aulne, le charme, il y a une infinité d'essences.
Voilà, donc vraiment un paysage.
Pas oublier aussi que les sols sont taillés en sol têtard.
Voilà, les sols sont... Alors, ils sont exploités, on exploite bien sûr les sols, on coupe les branches, et ce qui donne cette forme particulière de tête de têtard. Et bien sûr, ces branches servent non seulement à consolider les berges, mais aussi à créer des paniers et d'autres autres choses. Alors, le sol, eh bien, c'est un arbre vraiment symbolique, et on ne résiste pas à vous écouter ici un poème dédié donc à cet arbre particulier qui marque l'identité de Marie Audomarois.
Ce sol-là, je l'aime comme un homme. Est-il tordu, troué, souffrant et vieux? Sent-il crever et bossuer les yeux que font les nœuds dans son écorce? Est-il frappé dans sa vigueur et dans sa force? Est-il misère, est-il ruine, avec tous les couteaux du vent dans sa poitrine? Et néanmoins, planté au bord de son fossé d'eau verte et de fleurs d'or, à travers l'ombre et à travers la mort, au fond du sol, mord-il la vie encore. Un soir de foudre et de fracas, son tronc craqua, soudainement de haut en bas. Depuis, l'un de ses flancs est sec, stérile et blanc, mais l'autre est demeuré gonflé de sève. Des fleurs parmi ses crevasses se lèvent. Les lichens nains le festonnent d'argent. L'arbre est tenace et dur. Son feuillage bougeant, lui, au toucher furtif des brises tatillonnent. L'automne et ses mousses le vermillonnent. Son front velu, comme un front de taureau, bute contre les chocs de la tempête. Et dans les trous profonds de son vieux corps d'athlète se cache un nid de passereaux. Matin et soir, même la nuit, à toute heure je suis allé vers lui. Il domine les champs qui l'environnent, les sablons gris et les pâles marais. Mon rêve, avec un tas de rameaux frais et jaillissants, l'exalte et le couronne. Je l'ai vu, maigre et nu pendant l'hiver, poteau de froid planté sur des routes de neige. Je l'ai vu, clair et vif, au seuil du printemps vert, quand la jeunesse immortelle l'assiège, quand des bouquets d'oiseaux fusent vers le soleil. Je l'ai vu, lourd et harassé dans la lumière, les jours d'été, à l'heure où les grands blés vermeils, autour des jardins secs et des closes chaumières, s'enflent de loin en loin comme des torses d'or. J'ai admiré sa vie en lutte avec sa mort, et je l'entends, ce soir de pluie et de ténèbres, crisper ses pieds au sol et bander ses vertèbres et défier l'orage et résister encore. Si vous voulez savoir où son sort se décide, c'est tout au loin là-bas, entre fures des coccides, dans un petit chemin de sable clair, près des dunes où l'on peut voir dans l'air les batailles perpétuées des vents et des nuées bondir de l'horizon et saccager la mer. Alors bien sûr, c'est là, il s'agit d'un sol qui est au bord de mer, mais c'est tout à fait le même arbre qu'on voit nombreux hein, dans le marais Audomarois. C'est pour préserver les berges, qui sont aussi l'abri d'une infinité d'oiseaux, hein, les multitudes, ne serait-ce que les chouettes, les hiboux, le héron cendré qui vient s'y poser pour se mettre à l'abri. Les cormorans qui se reposent entre deux séances de pêche. Et ce poème, donc, sur le sol, on a oublié de vous le préciser, d'Émile Verhaeren.
De zwerver heeft zijn weg gezocht en daalde af langs de rivier. Verdween achter de laatste bocht en hij komt nooit meer terug naar hier. De zwerver heeft zijn huis verkocht aan iemand die het hoorde. Zijn weg loopt naar het noorden, het is een lange tocht.
Wie zei dat de vogels niet floten? Ik hoorde vandaag hun gezang. Hier bij de bomen klonk het lied dat zei de grote stad is bang. Jouw stad begrijpt mijn vrijheid niet onder de bomen. Onder de bomen.
De zwerver liet mij in de stad en langs de oevers van het meer. Verdween hij op zijn laatste pad en ik ken mezelf niet meer. Ik hou me vast aan wat ik had, ik zwijg in alle talen. Hij is niet terug te halen, een zwerver keert niet weer.
Wie zei dat de wouden niet geurden? Het ruikt hier naar dennen en hout. En langs de meren groeit het riet dat zegt de grote stad is koud. Jouw stad begrijpt mijn vrijheid niet onder de bomen. Onder de bomen. Zolang mijn weg gezocht, de grijze avond valt alweer. De rode zon besluit zijn tocht en nergens vind ik vrede meer. Waar is de vrouw die op me wacht, me zachtjes zal begroeten? Ik zoek met zere voeten de weg terug door de nacht.
Wie zei dat de stad veel te klein was? Nu loop je te zingen op straat. Je vrienden heb je weer herkend. Je drinkt en lacht tot 's avonds laat. Jouw hart begrijpt mijn stad. Je bent teruggekomen
onder de bomen van de stad. De bomen in mijn armen, onder de bomen in mijn armen, onder de bomen in mijn armen, onder de bomen in mijn armen.
Vous venez d'entendre Onder de bomen, interprété par Mick and Rolls, pour illustrer ce dont on vient de vous parler, Sous les arbres, le titre de la chanson. Nous venons à l'instant de vous parler des arbres rencontrés dans le marais audomarois, une infinité d'espèces, d'essences, sol, chêne. Voilà, je redonne la parole à Michel.
Et donc, préservation bien sûr des berges grâce au sol. Et ces berges sont aussi menacées par le rat musqué, ce rat musqué, donc qui lui aussi a été introduit malheureusement sur cette zone humide et envahie. C'est un animal très prolifique et il creuse des galeries qui fragilisent d'autant donc les berges et malheureusement parfois un tracteur passe au-dessus de ces berges fragilisées et tombe malheureusement bien sûr dans le Watergang. Ce sont malheureusement des drames qui arrivent de temps en temps. Et donc c'est une lutte constante quand il y a des campagnes régulières pour justement éliminer cet animal qui, bien sûr, non seulement fragilise les berges, mais aussi est un prédateur redoutable. Or, durant tous ces siècles passés, eh bien, sur les 3700 hectares que compte ce marais, le seul moyen de circuler était bien sûr le bateau. Le bateau ici que l'on nomme Bakove et Escude. Alors aujourd'hui, bien sûr, quand on visite ces marais, on ne rencontre plus beaucoup de ces bateaux, mais depuis en particulier que l'on a commencé à construire des routes de bitumé, on a commencé à les construire vers les années 60 et petit à petit, bien sûr, les maraîchers ont commencé à abandonner le Bakove pour bien sûr transporter leurs marchandises par bien sûr par voie routière. Alors ces bateaux, eh bien, le Bakove est une immense barque en bois de chêne. Pourquoi le chêne? Eh bien, tout simplement parce que c'est un bois qui est très résistant. Il sert à transporter les marchandises, les légumes, le matériel, l'âne, le cheval pour les labours. C'est un peu le camion du maraîcher. Il peut transporter jusqu'à 3 tonnes et lui-même pèse 1 tonne 5. L'escude, du néerlandais scute, c'est un bateau que l'on pourrait qualifier de, eh bien, c'est la voiture du maraîcher. Elle aide surtout à transporter le petit matériel, les hommes surtout, et aussi elle sert bien sûr pour les balades, pour aller à la pêche. Et puis encore aujourd'hui, eh bien, certaines maisons restent encore isolées et le facteur, eh bien, utilise toujours aujourd'hui encore l'escude pour distribuer le courrier donc auprès des habitants qui n'ont d'autre accès que par voie d'eau. Alors ces maisons sont typiques, hein, de l'architecture flamande avec jadis bien sûr il y avait le chaume, mais aujourd'hui ces toitures en chaume ont disparu pour des raisons surtout de sécurité et ont été remplacées par des pannes flamandes. Alors évidemment la conséquence de la construction des routes, eh bien, c'est que les maraîchers n'avaient plus besoin de Bakove et encore moins d'escudes. Et donc petit à petit ces bateaux disparaissent et il ne reste plus qu'un seul fabricant, les faiseurs de bateaux. Ces derniers mettent un point d'honneur à construire ces bateaux selon la tradition. Et d'ailleurs, je ne peux que vous inviter à aller les rencontrer, à les encourager, parce que c'est vraiment un travail absolument formidable qu'ils exécutent. Hein. C'est une dernière famille, ils sont plus que 3 à travailler donc sur les bateaux, donc les fameux Bakove. Ces bateaux donc qui sont faits en chêne, il faut compter à peu près 1 mois de travail pour les hommes, et donc c'est tout un travail vraiment fait à l'ancienne, et vous pouvez bien sûr aller visiter et réserver bien sûr une visite. On peut vous donner ici des coordonnées, donc c'est le 06 08 09 94 88, je répète 06 08 09 94 88, et n'hésitez pas à aller leur rendre visite. C'est absolument magnifique de voir ce travail d'artisan tel que l'ont pratiqué nos anciens.
Oui, je tiens à préciser que l'entreprise a failli complètement s'arrêter suite au départ en retraite de Monsieur Collin, qui malgré tout a été relayé. Il a appris le métier à son petit-fils et maintenant un des enfants par alliance a rejoint, ce qui fait qu'il y a le fils, le petit-fils et donc le mari d'une des filles qui a heureusement appris le métier, donc ils sont trois, et ils vous accueillent vraiment chaleureusement, ils vous font découvrir leur métier dans leur atelier. Mais il est, en dehors de la saison d'été, il est préférable de les appeler, puisque lorsqu'ils sont en route avec certains travaux, ils ne peuvent pas recevoir de public.
Oui, bien sûr, puisque là, ils sont quand même leur métier premier. C'est la construction donc de ces bacoves, les réparations aussi de ces bateaux. Donc, ils utilisent le bois de chêne, hein, qui est donc très résistant. Ils assemblent les planches, d'ailleurs, encore avec des clous de forgeron. Alors, qu'est-ce qu'un clou de forgeron? Ben, c'est un clou à quatre côtés. Il n'a pas le tronc rond, comme on peut le rencontrer régulièrement. Donc, c'est des clous vraiment... là aussi, il n'y a plus qu'un seul fabricant qui... frappe encore ses clous à l'ancienne. Et le colmatage, le calfatage est fait bien sûr avec de la fibre de lin qui est aussi donc cultivée en particulier dans notre région pour simplement assurer l'étanchéité bien sûr des bateaux.
Oui, on a vu d'ailleurs des agriculteurs locaux dans le pays audomarois cultiver le lin aussi. Il n'y a pas que dans la région, on en cultive beaucoup dans la région d'Onscott partout. Et d'ailleurs, je vous invite à aller visiter la maison du lin à Onscott avec Arnaud Van Robès qui vous accueille et qui vous explique la culture. Bon, ça c'est un autre sujet. Mais là, le lin sert à boucher les trous, les fissures avant qu'il y ait ce goudronnage fait à base de végétaux.
C'est goudron végétal, en effet.
Et puis, on a vu d'ailleurs une embarcation d'une association de type un bateau viking qui est dans la cour, qui est en réparation.
Voilà, et donc parce qu'ils ont une belle maîtrise, bien sûr, de réparation de ce type de bateau. Donc, les faiseurs de bateaux, n'hésitez donc pas à les rencontrer.
Het is niet waar dat ergens anders de bergen hoger, de vlakten vlakker en de rivieren trager zijn. Het is niet waar. Het is niet waar dat ergens anders de huizen hoger, de regens zachter en alle dalen dieper zijn. Het is niet waar. Echt waar is alleen. Je wil weer naar huis, een straat, een café, een vrouw, je bent thuis. Echt waar is alleen jouw huis, dat staat hier, al stinkt dan de grijze, de trage rivier. Thuis is hier, thuis is hier. Het is niet waar. Dat ergens anders de sterren feller, de zon veel warmer, de maan 's nachts zoveel witter schijnt. Het is niet waar. Het is niet waar dat ergens anders de hemel blauwer, de winter kouder, het gras van mij er groener schijnt. Het is niet waar. Echt waar is alleen. Je wil weer naar huis, een straat, een café, een vrouw, je bent thuis. Echt waar is alleen jouw huis, dat staat hier, al stinkt dan de grijze, de trage rivier. Thuis is hier, thuis is hier. Het is niet waar. Dat ergens anders de mannen sterker, de vrouwen zachter en kinderen zoveel liever zijn. Het is niet waar. Het is niet waar dat ergens anders de waarheid echter, de leugen slechter en vrienden zoveel hechter zijn. Het is niet waar. Echt waar is alleen. Je wil weer naar huis, een straat, een café, een vrouw, je bent thuis. Echt waar is alleen jouw huis, dat staat hier, al stinkt dan de grijze, de trage rivier. Thuis is hier, thuis is hier.
Coles, vous interprétez Teuys, ma maison n'est pas loin. Vous êtes à l'écoute de l'heure flamande sur Radio Plus 104.3.
Et nous évoquons donc le marais Audomarois. Alors les marais, c'est toujours aussi une source de fantasmes. Et bien sûr, le marais de Saint-Omer n'échappe pas à toutes ces légendes, à tous ces récits fantastiques. Et il y a un personnage tout particulier, bien sûr, qui est une référence. Et je vous laisse donc écouter le texte ici avec Marie-Jo.
Tremblez, petits enfants, Marie Grouette est de retour. Laissez-moi vous conter son histoire. Marie Grouette, personnage terrifiant de nos campagnes profondes, a hanté l'enfance de nombreux galopins et polissonnes. Au fin fond des nuits les plus noires de notre Artois, notre Flandre qui frissonne encore. La Marie Grouette, Marie Grouette, Marie Grouette, différentes orthographes, Grouette ailleurs, Mère Pichon pour d'autres, elle reste encore et toujours partout et autre part encore. La vieille méchante fée, petite cousine de Croque-Mitaine, héritière de la Vouivre et digne fillotte de la lignée des dragons de l'eau. Partout où croupit l'eau, où sommeille, partout où l'eau est trouble, turbide et fangeuse, au bord des trous et des gouffres sans fond, elle n'est pas bien loin. Tapie dans la vase des mares et des puits, des marais et des sombres rivières, patiente et attentive, elle guette depuis des siècles les enfants pleurnichards et méchants. On dit qu'elle ne quitte jamais son Grouette, cette fourche menaçante à quatre crocs courbés. On dit même, à voix basse, certains soirs de veillée, qu'elle n'a pas de fourche et que sa main est à Grouette pour mieux happer les marmousets. Prends garde, enfant, quand une tulle de brume légère flotte sur les eaux ou près des marigots, ne te méprends pas. C'est peut-être la traîne vaporeuse de son lourd voile blanc qui se déroule sur l'onde. Surtout quand il n'y a pas de vent. Marie Grouette rôde sur les berges, trop silencieuse où ne résonne que le cri sinistre des engoulevents. Parente de la Vouivre, les anciens racontent que des serpents grouillants la précèdent et la suivent. Mais ne t'y trompe pas, nul trésor ne se cache sous ses pas. Enfant, si tu croises les serpents d'eau, ne t'attarde pas. Prends garde à l'eau qui dort, à l'eau du seau, de la mare ou de l'abreuvoir, quand elle se fait miroir. Elle y guette le reflet de ton visage pour percevoir si gentil ou méchant tu es. Prends garde à toi si elle te connaît. Elle ne te tardera pas à venir te saquer avec son Grouette et si elle cache à Brioux dans les marais. Des bords de la lave à Houdin, au marais de Salperwick, du Ternois au Hainaut, dans les creux et vallons perdus de l'Artois, des confins de Picardie aux vasières de nos baies. Elle est partout. Et même nulle part, en même temps et par tous les temps, depuis si longtemps, en laissant le temps au temps. Hideuse et terrifiante, sa face est celle d'une tête de mort, où une masse peau parcheminée cadavérique épouse les creux des orbites. Vide au regard fixe et les formes du nez, dont le cartilage est déjà rongé, cependant que ses mâchoires édentées claquent parfois dans le vent. Hideuse et terrifiante, elle est tout de noir vêtue, furtive et crigneux, muchée sous son ample fichu comme une vieille paysanne de chez nous. Ses victimes, des enfants passages, qu'elle crochette et happe au bord des eaux, où elle cacherait, dit-on, ses pieds fourchus. Elle les entraîne au fond des puits et des abysses tout en ricanant, les grignote tout crues. Parfois gourmande, elle suce tout simplement et doucement leurs tendres âmes, pour rendre ensuite leurs cadavres à l'aube blême, sous les arbres tordus et moussus. Cependant, il nous faut aujourd'hui révéler un grand secret, secret que nos grands-mères chuchotaient tout en se signant les soirs d'orage au chevet du lit des tout-petits. Ce grand secret, en fait, leur fut révélé jadis par les sœurs mêmes de la Marie maudite, ondine dévoilée sous le premier rayon du soleil, celle qui danse aux aubes claires dans les eaux limpides des sources et des cascades, des fontaines et des ruisseaux jolis. Cet antique secret, je peux vous le transmettre ici. mais seul l'enfant pourra le répéter. Un puissant sortilège d'une fois l'an peut piéger notre horrible mari. À l'instant même où le soleil pointe à l'horizon, il vous faut vous mucher derrière les saules, fort de votre âme d'enfant, guetter et surprendre la grouette repue qui émerge du monde des poissons. J'arrêterai là ici le texte. C'est en fait un texte d'une dame qui se surnomme Marie Grouette, que nous avons pu rechercher sur le site Subartesia.
Et donc le marais, donc c'est aussi donc la zone des fantasmes, des cauchemars, et nous pouvons que vous inviter donc à visiter ce marais de Marois. Alors il y a deux sites, il y a la maison du marais à Saint-Omer qui organise bien sûr des visites du marais sur Bakov, avec une inscription préalable évidemment pour gérer bien sûr les promenades en Bakov à travers les marais qui vous font découvrir bien sûr les canaux, bien sûr, ces paysages très variés dont on vient d'expliquer au cours de cette émission. Il y a aussi un espace de plus de 500 mètres carrés d'exposition pour découvrir donc bien sûr le marais, son histoire, la vie des habitants, les vieux outils, comment on vivait à une certaine époque. Et donc là, c'est la maison du marais, donc que vous pouvez donc visiter, qui est ouvert toute l'année, et ouvert donc de juillet août. Bon, là c'est passé, donc c'était de 10h à 19h, mais donc ici en septembre de 10h à 18h, et au mois d'octobre à mars de 14h à 18h. Donc vous pouvez visiter les marais grâce à des promenades en Bakov et aussi le musée. Un autre espace, c'est la Grange Nature, qui est gérée par l'association Eden 62, qui elle aussi organise un musée pour découvrir la faune et la flore des marais, du Romelard en particulier. Et il y a une superbe balade. Alors là, il y a un travail immense qui a été fait par les hommes. C'est vous marchez sur un chemin de bois qui vous permet d'éviter, bien sûr, de marcher dans la vase et dans la boue. Et c'est là aussi absolument à découvrir. Et là, on voit le côté un peu sauvage du marais. Il y a d'ailleurs un observatoire qui vous permet de regarder eh bien ces oiseaux, en particulier comme le cormoran, le héron, etc. Donc vraiment, il y a de quoi passer une belle journée donc en découvrant ce site sensible qui est la zone humide donc du marais au Domarois, et nécessité de le protéger parce que c'est une source de vie importante. L'émission touche déjà à sa fin, donc eh bien nous allons vous souhaiter une excellente semaine sur les ondes de Radio Plus.
J'habite dans un trou perdu, près des nuages. J'y ai déposé mes bagages et j'ai du plaisir à y vivre, car j'y respire un air parfumé de légende folle et du vent de la mer du Nord. J'aime écouter les lourds chevaux au pas tranquille me parler des labours d'antan, de cette terre calme et fertile, chant des batailles, au bruit de bottes en tout genre, souillère de sang, c'est doux sillon. Oui, j'habite en Flandre, je suis logé là-haut, tout près du ciel. Ja, ik woon in Vlaanderen, boven, ik heb mijn thuis, dichtbij, bij de hemel. Beaucoup d'aventuriers reviennent au port d'attache pour aborder l'ultime voyage, avec autour de les images pieuses de l'enfance. Laissons du préau de l'école sonne au vent. La mer du Nord, oui, j'habite en Flandre, je suis logé là-haut, tout près du ciel. Ja, ik woon in Vlaanderen, boven. Mij thuis, hierbij, bij de hemel. Je suis de retour au pays, bien avant l'âge.